France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, le premier 49.3 de la gouvernance Bayrou dès demain. Pour faire adopter le budget, risque de censure au bout de cette séquence. Nous en parlerons avec notre invité, le député socialiste de l'heure, Philippe Brun. Circulation toujours difficile ce matin pour les conducteurs sur la RN90 en direction des stations de la Tarentaise après un éboulement hier. Nous irons à Pékin qui n'a pas tardé à porter plainte contre l'OMC, contre l'augmentation unilatérale des droits de douane imposée par Donald Trump. Et puis nous serons à Jérusalem pour tenter de décrypter cette opération militaire israélienne en cours en Cisjordanie occupée. Puis à Marseille, nous partirons. Marseille qui entamera demain les travaux de rénovation de la Bonne Mère. En basket américain, l'arrivée de Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire du basket. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur la magie et de la nostalgie pour les plus anciens.
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce cube?
Il a fait mon tour de carte.
Mais écoutez, Garcimore, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui?
Garcimore et Denis Farr, une autre époque. Rendez-vous dans la magie des bonnes ondes. Et puis le temps de ce dimanche, Céline Dacosta, ce sera un après-midi ensoleillé.
Oui, soleil sur une grande partie du pays. On aura juste des nuages sur la pointe du Finistère et des grisailles tenaces par endroits sur le centre-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Peut-être le bout du tunnel donc pour ce budget 2025 qui fait toujours défaut à la France. François Bayrou abrégera les débats dès demain à l'Assemblée. Il l'annonce dans la tribune dimanche, le 49-3 en bandoulière pour faire adopter donc en force, sans vote, ce budget de l'État et sans doute dans la foulée en fin de semaine, celui de la Sécurité sociale, ce qu'il expose évidemment à la censure, moins de 2 mois après son arrivée à Matignon. Sa survie dépend donc du PS et du RN, on va en reparler. Les prochains jours seront décisifs, c'est ce que dit ce matin la ministre du Travail, Catherine Vautrin, dans le Parisien dimanche. Bonjour Camille Marigaud.
Bonjour.
Service politique de France Inter. Catherine Vautrin qui précise les dernières concessions faites au PS sur la sécurité sociale.
Oui, sur ce même budget de la Sécu qui avait fait chuter le gouvernement Barnier il y a 2 mois, en partie avec les voix du PS. Des socialistes qui cette fois ont été entendus, assure la ministre. Catherine Vautrin fait la liste. 1 milliard d'euros en plus pour les hôpitaux, suppression des tickets modérateurs, ce qui reste à la charge du patient. Cela va notamment concerner les consultations médicales, 400 millions d'euros concédés. Le fonds d'urgence pour les EHPAD va lui tripler pour passer de 100 à 300 millions d'euros. Au total, le déficit de la sécurité sociale devrait s'approcher des 23 milliards d'euros, 7 milliards de plus que dans le texte de l'automne dernier, mais 7 milliards de moins que s'il n'y avait pas de budget, calcule Catherine Vautrin. Côté recettes, le milliard pour les hôpitaux doit être récupéré via une contribution des complémentaires et des mutuelles. Des économies sont aussi prévues sur certaines niches sociales, ces compléments de salaire peu ou pas soumis à cotisation. La copie de ce budget peut encore bouger, la main du gouvernement est tendue, explique la ministre, mais elle prévient, il y a un moment où il faudra savoir arrêter, car il y a urgence.
Et voilà, la survie de François Bayrou à Matignon, suspendue au Rassemblement National et au Parti Socialiste, un dilemme pour le PS, on en parle avec notre invité. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour.
Député socialiste de l'Eure, vous avez été le négociateur du PS au sein de la commission mixte paritaire sur le budget. Il faut savoir s'arrêter, hein, dit ce matin la ministre du Travail, Camille Marigaud vient de le rappeler. Vous qui avez déjà fait plier le gouvernement, que vous faut-il de plus ce matin pour ne pas le censurer?
Écoutez, nous avons obtenu de nombreuses victoires. L'abandon de la taxe sur l'électricité, la création d'une taxe sur les transactions financières en augmentant de plus 0,1 point le rendement, ça fait 550 millions de plus. Nous avons obtenu 4000 postes de plus supplémentaires dans l'éducation nationale, des moyens pour les régions, les départements, les collectivités locales. Il y a toutefois dans ce budget plusieurs choses qui nous dérangent. Et ce budget n'est pas le nôtre. Il ne le sera jamais. Il y a des coupes sombres et importantes dans beaucoup de moyens des services publics. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous avons voté contre le budget en commission mixte paritaire, malgré les quelques victoires qui nous ont été accordées, et que s'il y avait un vote demain, nous voterions aussi contre.
Mais même si le compte n'y est pas, êtes-vous prêt au PS à donner un budget à la France tout de même? Fut-il mauvais à vos yeux, plutôt que pas de budget du tout?
Nous allons en discuter, le Parti Socialiste n'a pas pris sa position encore. Nous devons faire finalement l'évaluation entre ce qu'il y a de pire, ce budget qui est récessif, ou pas de budget du tout avec les difficultés économiques que cela crée. Les socialistes vont donc délibérer, réfléchir et faire connaître leur position. Le vote de censure aura lieu en toute tête cause probablement mercredi. Mmh. Et d'ici là, nous ferons valoir nos options et notre position en ayant finalement un seul but, une seule boussole, l'intérêt national, l'intérêt des ouvriers et employés qui travaillent, l'intérêt de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre.
Mais la dernière censure contre le gouvernement Barnier, il y a deux mois, aurait coûté plusieurs milliards d'euros à la France. 175 euros par Français, c'est ce que dit ce matin Catherine Vautrin. Est-ce que ce sera un argument qui pèsera dans votre choix de voter ou non la censure mercredi?
Bon, ces chiffres sont tout à fait exagérés, mais il est vrai que la discorde politique en haut a des conséquences en bas. On va dire que les investissements sont en train d'être considérablement réduits. Ceux des collectivités et de l'État sont tout simplement gelés et interdits par une circulaire. Il y a un certain nombre d'emplois de recrutement qui sont bloqués. Il y a des difficultés importantes dans le domaine du bâtiment. Je rappelle que 70% de l'investissement civil en France est porté par les collectivités locales. Il y a des difficultés sur le front de l'emploi et de l'industrie, une augmentation de 40% du nombre de plans sociaux. Donc tout cela, nous le savons bien. Donc le coût du manque de discussion politique au plus haut niveau de l'État est élevé. Nous estimons n'avoir pas été suffisamment entendus par François Bayrou.
Juste un commentaire sur Lionel Jospin qui appelle les socialistes à ne pas voter la censure mercredi. Que vaut désormais la parole de Lionel Jospin au PS ?
C'est une parole qui sera évidemment entendue et nous avons tous toujours beaucoup d'admiration pour un homme que l'on ne peut qualifié de traître ou de macroniste. Je rappelle qu'il est l'homme qui a mis en place les 35 heures en France, seul endroit au monde où il y a, où on travaille finalement une durée de travail aussi réduite, qui a mis en place la couverture maladie universelle, seul pays d'Europe à avoir mis en place cela. Un homme de gauche auquel nous devons beaucoup de conquêtes sociales et je suis certain que sa parole sera écoutée parmi les députés socialistes.
Et si le PS ne vote pas la censure, ça risque d'irriter un peu plus la France insoumise. Avec quelles conséquences d'ailleurs pour le nouveau Front populaire déjà divisé, pour ne pas dire inaudible.
Écoutez, nous nous décidons en fonction de l'intérêt national, l'intérêt des ouvriers et des employés, c'est notre seule boussole. La France insoumise a fait un autre choix, c'est celui de refuser de discuter, quoi qu'il arrive, quelle que soit la configuration, quelle que soit la situation du pays. Nous avons une vraie divergence sur ce point, et face à l'histoire, nous voulons montrer notre responsabilité. Nous sommes donc allés négocier, nous disons que le compte n'y est pas, et nous réfléchirons à l'éventualité de voter ou non la censure ce mercredi.
Et en 10 secondes, pardon de vous presser, quand annoncerez-vous votre consigne de vote ?
Probablement avant mercredi, en tout état de cause.
Forcément, parce que vous voterez mercredi.
Probablement mardi soir, après le bureau national du Parti Socialiste.
Merci beaucoup de ces précisions. Philippe Brun, donc député socialiste de l'Eure. Circulation toujours difficile ce matin pour les conducteurs sur la RN90 en direction des stations de la Tarentaise après un éboulement hier, éboulement qui a poussé des centaines d'automobilistes à s'arrêter dans les hébergements d'urgence proposés dans plusieurs villes de Savoie. Et ce matin encore donc, il faut s'armer de patience au volant, Philippe Père.
Il y a plus de 20 km de bouchons dans le sens de la montée à la mi-journée et cela ne cesse d'augmenter. Il faut bien 1h30 avant de pouvoir accéder au fameux tunnel de Ponceran. Ce tunnel habituellement réservé à la descente, mais où exceptionnellement vous circulez dans les deux sens à vitesse très réduite. Le trafic est donc toujours très perturbé, mais c'est important de le dire, cela n'a rien à voir avec hier et les plus de 30 000 véhicules qui étaient attendus. Aujourd'hui, c'est deux fois moins. La question qui se pose désormais, c'est à quand une réouverture de cette portion de la Nationale 90 ? Aujourd'hui, selon la préfecture de la Savoie, le but, c'est de purger la falaise où des blocs instables ont été détectés hier. Ensuite, il faudra la sécuriser, puis remettre en état la chaussée. Donc à cette question, pour l'instant, pas vraiment de réponse. Et c'est quand même assez inquiétant, à une semaine du premier chassé-croisé des vacances de février.
Le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci, plaide ce matin pour du mordant en Europe, dit-il. Du mordant dans les négociations commerciales avec les États-Unis qui envisagent d'augmenter les droits de douane des produits européens. Et pendant que l'Europe se demande quelle attitude adopter, eh bien la Chine, elle, n'a pas tardé à réagir aux 10% supplémentaires. Pékin porte plainte contre Washington devant l'OMC. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Pékin. Voilà donc une réaction du régime chinois rapide et vive.
Oui, lors de la première guerre commerciale lancée par Donald Trump en 2018, la Chine avait été quelque peu prise de court. Cette fois, la réaction a été immédiate. Les autorités chinoises sont sorties de leur silence médiatique ce matin au milieu de 8 jours fériés d'affilée ici à l'occasion du Nouvel An chinois. Avec une première annonce, effectivement, la saisine de l'Organisation mondiale du commerce, mesure forte mais qui reste dans les faits assez symbolique quand on connaît les lenteurs de l'OMC pour traiter les plaintes. La Chine fait d'ailleurs elle-même l'objet de plusieurs enquêtes. Mais là où Pékin espère frapper le plus fort, c'est en ripostant, et le régime communiste annonce donc, je cite, des mesures correspondantes. Rien de concret pour le moment, mais on imagine de possibles droits de douane sur les produits américains vendus à la Chine, et notamment les produits agricoles comme le soja. Des dizaines de milliards d'euros sont en jeu chaque année. La Chine sait qu'une augmentation de ses tarifs douaniers pourrait avoir un impact sur les fermiers américains, susceptible de faire réfléchir Donald Trump. Et puis il y a aussi l'arme Tesla et sa grande usine de Shanghai. Cela fait aussi partie des scénarios de représailles. S'attaquer au développement de Tesla en Chine et à son patron Elon Musk pourrait être un moyen utilisé par Pékin pour faire pression sur le président américain.
Sébastien Berriot, en direct de Pékin. C'est ce dimanche qu'entrent en vigueur les premières dispositions phares de l'Artificial Intelligence Act. C'est un règlement européen qui est un peu un mix entre encouragement à l'innovation et garantie de sécurité. C'est une première d'ailleurs à l'échelle mondiale pour encadrer l'intelligence artificielle quand elle menace les libertés fondamentales. Fabien Cazot est à Bruxelles.
Plusieurs catégories de risques sont répertoriées dans ce règlement, dont les plus graves sont définies dans les chapitres qui entrent en vigueur ce dimanche. Il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de désinformation massive, mais aussi à des fins de surveillance généralisée que l'IA pourrait permettre d'exercer à l'encontre des citoyens, un peu comme en Chine où les comportements sociaux sont évalués et donnent lieu à une notation établie notamment par algorithme. L'encadrement d'autres systèmes dits à haut risque attendra encore quelques mois, tout ce qui touche notamment à l'éducation ou encore aux ressources humaines. Les entreprises ou les administrations qui utilisent l'IA dans ces domaines se verront exigées de fournir une documentation technique sur leur système, devant inclure des mesures de gestion des risques. Les manquements constatés donneront lieu à des amendes pouvant s'élever au maximum à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial pour les entreprises.
Et une opération militaire israélienne est en cours aujourd'hui en Cisjordanie occupée au lendemain du quatrième échange entre otages et prisonniers. Il y aurait au moins un mort. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Correspondant à Jérusalem, RFI pour France Inter. La victime serait un des prisonniers palestiniens relâchés par Israël en 2023 dans le cadre des premiers échanges, ce qui fait d'ailleurs craindre pour les prisonniers relâchés ces derniers jours.
Oui, les prisonniers libérés qui récidivent, c'est la principale préoccupation d'Israël, qui pourrait empêcher la mise en œuvre de la seconde phase de l'accord passé avec le Hamas. Et c'est aussi la grande menace de l'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Opération mur de fer renforcée depuis ce matin. L'armée israélienne annonce avoir étendu ses raids sur plusieurs sites en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jenin et de Kabatieh, dans le nord du territoire palestinien. La nuit dernière, ce sont plusieurs frappes aériennes qui ont été menées. Selon un communiqué militaire israélien, 3 cellules terroristes ont été éliminées en l'espace de quelques heures alors qu'elles s'apprêtaient à passer à l'action. Des troupes opèrent également dans le village de Tamoun, au sud de Jenin, où des caches d'armes auraient été mises au jour. Pas de chiffre exact sur le nombre de victimes, à ce stade en tout cas.
Michel Paul à Jérusalem, et je précise que ce matin, la Turquie se dit prête à accueillir certains Palestiniens libérés par Israël dans le cadre du cessez-le-feu en ce moment entre Israël et le Hamas.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Début de chantier demain à Marseille pour rénover la Bonne Mère. Mais symboliquement, c'est dès ce matin que les travaux ont été lancés. En ce jour de fête de la Chandeleur, les cloches de Notre-Dame de la Garde ont sonné dès 5h pour annoncer l'arrivée de l'archevêque en bateau sur le Vieux-Port. Une messe a été célébrée avec bénédiction des entreprises et des ouvriers. Fred Chapuis, ici Provence, demain, donc, débutera un chantier pas comme les autres.
Ah oui, sans aucun doute. La rénovation, la plus observée à Marseille, la cinquième déjà de l'histoire de la Bonne Mère, mais la première depuis 89. Le chantier vise d'abord à nettoyer la crypte, restaurer les anges du clocher et les pierres avec un traitement hydrofuge contre la pluie et les embruns de la mer. 10 mois de travaux jusqu'en décembre avec plusieurs étapes, dont la plus attendue, la redorure de la Vierge à l'Enfant Jésus. L'opération délicate aura lieu en toute fin d'année, réalisée par 5 ou 6 doreurs qui déposeront délicatement au pinceau 30 000 feuilles d'or 23 carats, l'équivalent d'un demi kilo d'or. Avant cela, un échafaudage hermétique sera installé tout autour de la statue pour être décapée et recouverte d'une couche anti-corrosion. Avant la touche finale, donc, la dorure, prévue, nous dit-on, pour durer 50 ans.
Et il faudra bientôt 2 billets pour voir la Joconde au Louvre, annonce ce matin sur France Inter de la présidente du musée, Laurence Descartes. 1 billet supplémentaire donc à celui de l'entrée simple dans le musée le plus visité au monde. La salle du tableau de Léonard de Vinci sera accessible de manière autonome par rapport au reste du musée. Martin Hajdari succède aujourd'hui à Roch-Olivier Maistre à la tête de l'ARCOM. Martin Hajdari était directeur général adjoint de l'Opéra de Paris depuis 5 ans. Dans le basket américain, c'est un des plus gros transferts de l'histoire. L'arrivée de Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles. Le meneur star de Dallas est échangé avec le pivot californien Anthony Davis. Luka Doncic est un basketteur capable, la saison dernière, d'inscrire 73 points en un seul match. Transfert inattendu et voilà donc de quoi secouer la NBA, Xavier Monferrand.
À ce niveau-là, c'est presque du cinéma. D'ailleurs, les Américains appellent ce type de transfert un blockbuster trade, comme un film d'Hollywood à gros succès et à gros budget. Là, il concerne 2 stars de la NBA, Luka Doncic, le meneur slovène, visage de la franchise des Mavericks de Dallas. Il en était le passé, le présent et l'avenir. Échangé avec une autre star, Anthony Davis, lieutenant de LeBron James aux Lakers de Los Angeles et champion olympique à Paris lui aussi cet été avec les États-Unis. Preuve qu'en NBA, jamais personne n'est à l'abri d'un déménagement soudain. Pas même le plus grand des joueurs, surtout quand la date limite des transferts approche, en l'occurrence dans quelques jours seulement. Même si les joueurs y sont habitués, tous ont été choqués cette nuit en l'apprenant parfois en plein match. Mais les intentions sont claires. Dallas choisit d'hypothéquer son avenir pour aller chercher le titre dès cette année. Les Lakers, eux, relancent leur destinée en offrant une dernière chance de titre à LeBron James et en préparant la suite.
Xavier Monferrand à suivre. Les bonnes ondes de Sandrine Houdin. C'est le second épisode de Sur cette école de magie à Paris. École qui propose un diplôme magie équivalent Bac plus 2. Double fond. Le double fond, c'est le nom de cette école. Première école de magie au monde reconnue par le ministère du Travail. Parmi ses élèves, de jeunes rescapés de Parcoursup, également des adultes qui rêvent de changer de métier, quitter son CDI pour la magie et pourquoi pas.
Une école qui encourage la triche, forcément, ça attire. Aurore, par exemple, elle était danseuse, elle a fait le grand écart.
Ah oui, complètement. Passer de la danse à la magie.
Aurore, c'est parti. On a les 4 pièces. Le gimmick est par-dessus, d'accord ? Ouais. Tu vas retourner le gimmick, en fait, pour l'avoir contre ta paume.
Combien de pièces tombées par terre ?
Beaucoup.
Le plus dur.
On a tellement de manipulations au niveau des mains qu'en fait, on fait travailler des muscles qu'on ne soupçonne même pas. Par exemple, si j'attrape une pièce comme ça dans ma paume de main, je dois resserrer un petit peu la main pour pouvoir tenir ma pièce sans utiliser mes doigts.
Eh oui, la magie n'est pas si magique. C'est la première leçon du double fond. Alexandra Duvivier, prof et magicienne.
En fait, la magie, c'est un peu comme jouer d'un instrument de musique. C'est des heures et des heures d'entraînement inlassablement. Voyons, prenons un exemple. J'ai un peu de matériel ici. Ah, mes allumettes. J'ai des allumettes en bois. Tu as sûrement entendu parler de l'électricité statique. Si tu frottes l'allumette sur mon tissu de robe, eh ben figure-toi que, regarde, l'allumette frétille. C'est pas hallucinant, ça ? Ben là, par exemple, il faut travailler une pression précise entre l'allumette et le doigt pour pouvoir faire frétiller l'autre allumette. Et ça, si je te les donne comme ça, ben tu vas pas y arriver. Sauf si tu t'entraînes, et là, tu peux y arriver. Mais c'est pas inné. Il faut te muscler les doigts d'une certaine façon pour que ça frotte et que ça fasse un effet magique. Alors, on y va. J'ai 1, 2, 3 et 4 pièces, on est d'accord ? Rien dans les mains ? Je vais te mettre une pièce dans la main.
Mathieu, un autre futur magicien, il était logisticien.
C'était, disons, pour rassurer les parents quand j'étais plus jeune. Et ensuite, en même temps que faire la logistique, j'ai commencé la magie et maintenant je me suis dit à fond dans la magie. Quoi.
En fait, c'est retour en arrière, je vais faire ce que j'aime. Quoi.
Ouais.
En fait, le maître mot, je dirais, c'est donner du sens à leur vie et pas rester dans un moule toute leur life. C'est vrai que ça change, les mentalités aussi là-dessus changent. On n'est plus maintenant à faire de rester dans une même entreprise pendant 50 balais. Non, on va donner du sens, on va chercher des choses pour pouvoir se réaliser soi-même. J'ai un très très gros respect pour tous ces étudiants là qui se remettent en question, tu te rends compte ? C'est une remise en question totale sur soi-même. Ils se disent, je suis professionnel dans mon métier, bah là, je suis néophyte, je vais devenir un moldu, je ne connais rien et je vais me remettre en question. Bah, moi, j'ai beaucoup de respect.
Du respect, donc. Dans cette école de magiciens, et comme par magie, les bonnes ondes sont aussi sur le site de Radio France. Le temps.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec du soleil cet après-midi.
Oui, comme hier, et on en profite, hein, puisque la grisaille s'annonce plus tenace pour les prochains jours, donc on sort faire le plein de vitamine D. Mmh. Grâce à ce soleil largement présent sur une grande partie du pays, à l'exception du Finistère, où le ciel va rester couvert cet après-midi avec encore de faibles averses, c'est dû à une perturbation qui tente de rentrer sur le territoire, mais qui ne va pas y arriver, enfin à part sur le Finistère. Mmh. On a également un petit peu de grisaille tenace entre le Val-de-Saône et le sud de l'Alsace. Quelques nuages encore près de la Méditerranée, mais là, la tendance est à l'amélioration par rapport à ces derniers jours et puis à ce matin, avec le retour du soleil.
Et tout ça avec des températures de saison.
Oui, en tout cas sur la plupart des régions, puisque la moyenne cet après-midi va de 5 à 10 degrés. On risque d'être un petit peu en dessous de cette moyenne dans le nord-est, là où la grisaille va résister. 9 à 13 degrés, c'est la moyenne pour la moitié sud. Un petit peu plus près de la Méditerranée, où on ira de 13 à 16 degrés cet après-midi.
Céline Dacosta.